last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
Journal du Festival, épisode 3. Troisième épisode du Journal du Festival. Aujourd'hui, Alix, Patrick, Boris et Nico vous proposent
un extrait de l'interview de Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateur du film Paris pieds nus.
Une chronique du film germano-danois Les Oubliés de Martin Zandvliet.
L'agenda du jour. Et on commence avec Patrick et sa chronique du film serbo-allemand Enclave de Goran Radovanovic.
Deuxième long métrage du réalisateur serbe Goran Radovanovic, le film Enclave aborde un thème politiquement sensible, la minorité serbe du Kosovo 5 années après la guerre. Enclave nous montre la vie d'une famille qui habite dans une enclave serbe chrétienne parmi une large communauté albanaise musulmane, ce qui rend le quotidien très compliqué. Nenad, le petit garçon de 10 ans, doit se rendre à l'école en char blindé sous la protection de la communauté internationale. Lorsque son grand-père meurt, il faut rendre les derniers sacrements à l'aide du prêtre orthodoxe et l'enterrer au cimetière situé en territoire ennemi. Le jeune Nenad tente de se rapprocher des enfants de la majorité musulmane et de s'en faire des amis. Mais les jeux d'enfants marqués par la guerre sont eux aussi violents. Un fils de berger albanais dont le père a été tué par des Serbes fait planer une menace de vengeance mortelle tout au long du film.
Zašto nas maltretirate?
Oggi non ci sono lezioni. La scuola è chiusa.
Nelegalno posjedovanje oružja je provokacija.
I kao takva izvor budućeg konflikta.
Još šta li je?
Une coexistence entre communautés est-elle possible? À cette question, Goran Radovanovic semble assez pessimiste en offrant un portrait dur et faiblement nuancé de la majorité albanaise. Seules les relations humaines et personnelles entre les enfants permettent d'apporter une lueur d'espoir, bien que le salut soit peut-être ailleurs, dans la migration et la vie dite normale à Belgrade, où toutefois la discrimination ethnique reste forte également. Film tantôt émouvant, tantôt angoissant et dur, dans lequel éclatent à tout moment les déchirements entre les peuples qui se reflètent jusque dans les jeux d'enfants, dans lesquels les armes réelles remplacent les jouets. Tourné en Serbie dans de très beaux décors naturels, le film de Goran Radovanovic nous fait entrevoir avec une réalité brutale les lendemains difficiles d'une guerre encore toute proche. Enclave, un film coup de cœur de ces premiers jours de festival que vous pourrez visionner au Cinéma Vida le dimanche 13 novembre à 16h30 en présence du réalisateur.
Alix a rencontré Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs de Paris pieds nus.
It's from my Aunt Martha. Dear Fiona, help. After 48 years living in Paris, they want me to move to an old people's home. Ridiculous. I'm only 88. Je cherche ma tante Martha. Photo?
Ok.
Fiona, une bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante Martha, menacée d'internement dans une maison de retraite. Mais Fiona perd ses bagages et découvre que Martha a disparu. C'est le début d'une avalanche de catastrophes qui lui feront croiser le chemin de Dom, SDF, égoïste, frimeur et collant qui lui pourrit la vie. Ceci, messieurs, n'est pas un fait divers, mais le pitch du nouveau film de Fiona Gordon et Dominique Abel, Paris pieds nus, qui sortira le 8 mars 2017. Je vous propose donc une rencontre avec ces deux réalisateurs de talent, héritiers du clapstick et du burlesque, dans le cadre de la 17e édition de l'Arras Film Festival. Paris pieds nus, mais d'où vient ce titre ?
Alors, l'idée, c'était un peu de parler de la liberté, de sortir des carcans, de se lâcher les orteils, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une métaphore sur la liberté.
Dans chacun de vos films, vous mettez en scène des personnages perdus dans un environnement qui semble trop grand pour eux, que ce soit dans des lieux champêtres ou maritimes, dans Rumba ou l'Iceberg, ou plus urbains comme le Havre dans La Fée. Pourquoi avoir choisi de tourner à Paris cette fois ?
Bon, on avait besoin on avait un personnage qui est très très perdu et on voulait jouer avec les deux extrêmes. Elle vient d'un petit village au Canada où il n'y a vraiment rien, il y a 5 maisons, elle est bibliothécaire, elle n'est jamais sortie de ça. Donc on voulait l'extrême opposé, mais en même temps une ville qui pour nous a une importance, une ville poétique, une belle ville. Mais aussi qui a son sous les ponts, un côté moins beau, mais beau pour nous. Et puis, quelque part, on a tiré pas mal de choses de notre jeunesse à Paris, parce qu'on a tous les deux, on a fait une école à Paris dans les années 80. Et donc, on a eu plein d'expériences, un peu innocentes aussi, à découvrir la grande ville. Et donc, c'est un petit peu tout ça.
Pour continuer sur Paris, dans vos précédents films, les décors sont plus imaginaires, plus fantasmés. Les personnages évoluent dans des lieux peu connus du grand public avec Paris pieds nus, sa ville, ses rues, ses monuments et son métro emblématique. Vous offrez des repères aux spectateurs et donnez à votre histoire une dimension un peu plus réaliste. Est-ce que c'est voulu tout ça ?
On voulait montrer le Paris qu'on aime. On a vite repéré l'île aux cygnes au pied de la Tour Eiffel. C'est vraiment central, mais c'est peu connu. C'est un endroit où les gens vont flâner, manger leur sandwich à midi. C'est un endroit aussi où il y a des SDF qui dorment sur les bancs là. Et puisque moi je joue un SDF, ben ça s'y prêtait bien. Côté plus réaliste, on était un peu excités à l'idée d'amener notre burlesque très physique et très chorégraphié dans la réalité, de faire un mélange comme ça. Et vu que c'est la première fois qu'on tourne avec une caméra numérique, donc qu'on pouvait se permettre de tourner très tard le soir, par exemple, sans apport d'éclairage, c'est comme si on changeait nos pinceaux ou nos couleurs, et on a fait une nouvelle toile.
Diriez-vous que Paris, du coup, est un personnage à part entière dans votre histoire ?
Oui, mais pour nous, tout est toujours un personnage dans nos films, même dans les autres films. Le décor est hyper important pour nous. Il exprime des choses autant que nous, en tant que comédiens, on exprime des choses. Et nous, dans le décor, ça exprime encore quelque chose. Quand on écrit, dès qu'on a un squelette et on a improvisé un tout petit peu pour trouver le contenu, on va tout de suite dans les lieux pour essayer d'intégrer ces lieux et de les faire jouer comme des personnages. Pour nous, c'est ça le cinéma aussi. Les images communiquent beaucoup plus que le dialogue et la psychologie de personnages. Il y a les couleurs, l'architecture, la géométrie, le cadre. Oui, c'est important toujours.
Pour Paris pieds nus, comme pour le reste de votre filmographie, vous choisissez des plans colorés et symétriques, un peu dans la même veine que ceux de Wes Anderson ou Jacques Demy par exemple. Ce choix justement de symétrie et de couleurs très flashy, est-ce que ça a une fonction humoristique pour vous ?
On est peut-être un peu psychorigide, je ne sais pas, mais en tout cas non. On aime bien, on vient de la scène hein, et on est un peu inspiré par ces pionniers du cinéma comme Chaplin, Keaton ou autres. On aime la comédie musicale aussi, mais ce qui est important pour nous, c'est que ce que le corps raconte. Comme là, par exemple, toi qui es en face de nous, avec tes cheveux, là, avec ton bras tendu. Je ne sais pas, souvent quand je regarde la télé et que tu as un politicien qui parle, je suis intéressé par le gars qui est derrière ou qui essaye, qui se rend compte qu'il est à l'antenne. Ou, tu vois, le corps raconte tellement que la fixité aide à dire ça. La fixité, ça veut dire que c'est le corps qui va donner le rythme, qui va créer l'histoire. Le corps de l'orteil jusqu'au-dessus des cheveux. À chaque fois, on remet en question ça lors des répétitions. Et puis, en fait, on retombe assez régulièrement sur une caméra fixe.
Et par rapport aux couleurs, c'est marrant parce que notre décorateur, il est assez calé années 50, mais on essaie de sortir de là. On aimerait bien qu'il propose autre chose que les années 50. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on désire spécialement. Mais c'est sûr que dans une ville qui est plutôt gris, si on veut que les corps ressortent, il faut un peu de couleur.
Paris Pieds Nus sortira le 8 mars 2017 dans nos salles. C'était une rencontre avec Fiona Gordon et Dominique Appel dans le cadre de l'Arras Film Festival 17e édition proposée par Alix pour PFM Radio. Ah. Ah.
Avant de retrouver l'agenda du jour, on écoute Boris qui nous parle du film Les Oubliés de Martin Zandvliet.
Connaissez-vous le traumatisme du spectateur ? Eh bien moi je l'ai rencontré un samedi soir vers 21h30 en salle 2 du Cinémo Vida lors de la projection dans la catégorie découvertes européennes du film danois en coproduction avec l'Allemagne, Les Oubliés. La traduction en français de ce titre est plutôt ironique car en fait le spectateur n'est pas prêt de l'oublier. Le pitch ? Très simple. Quelques jours après la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers allemands sont contraints de déminer les plages danoises truffées de mines antipersonnelles et autres. Et c'est vrai que les Allemands ont mis un joyeux bordel explosif sur ces plages. Plus de 2 millions de ces saloperies y sont enterrées, à environ une profondeur de 20 cm. Seulement voilà. Les Allemands qui sont réquisitionnés pour cette mission plus que délicate sont jeunes, voire presque des enfants. Une question se pose alors pour le spectateur, toutes ces jeunes recrues qu'ont-elles vraiment à voir avec la pose de ces mines ? À vrai dire, certainement pas grand-chose, mais ce sont des Allemands, alors autant dire que c'est à eux de faire le ménage. On se doute bien en tant que spectateur à la lecture de ce pitch qu'on s'embarque sur un navire cinématographique qui n'aura rien d'une colonie de vacances. Ça va tanguer grave et la houle risque d'être sévère. Mais cette période d'après-guerre dans les livres d'histoire, on n'en parle pas. Et là, on n'oublie pas le titre en français du film, Les Oubliés, et on va prendre très cher. Le film commence et le décor est planté dès les premières minutes. Une jeep avec à son bord le sergent danois Rasmussen sillonne une route où les prisonniers défilent pour être envoyés sur différents sites de déminage. Il va être chargé de mener une quinzaine de ces jeunes Allemands à une démine partie. 45 000 au total à extirper et à désamorcer. Et le traumatisme du spectateur commence.
Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die Sie zuvor hierher gebracht haben.
Seid ihr Soldaten?
Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie allen schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen?
Nein, Herr Feldwebel!
Ich hab eine!
Ich hab eine!
Frein de la jeep, jurons, sa gueule, coup de poing répété sur un visage déjà ensanglanté, un drapeau danois change de main, violence à l'écran, stupéfaction du spectateur. Les recrues sont formées, mises au pas, ils doivent être de bons soldats, mais ils sont allemands. Alors, le sergent danois Rasmussen fait son job, les jeunes recrues ne bronchent pas, ils savent pourquoi ils sont là, ou peut-être pas. Les jours passent et privés de nourriture, les jeunes sont contraints d'envoler dans une ferme pas loin de leur campement et, pas de bol, ils bouffent ce qu'ils trouvent. Erreur, c'est de la morora. Et soudain...
Stop !
Die små drenge, Ibe.
Oh Gott, das will mir selv mit doch!
Små drenge, der råber på deres mål, når de bliver bange, eller får sprunget arm og ben af.
Det er tysker, Karl. Hvis jeg hører mere om de drenge, så tager jeg selv ud og skyder dem en for en. Forstår du det?
Ernst, kom bitte.
Kom her.
Ernst, kom bitte.
Mais le sergent Rasmussen a la solution. Il n'oublie pas que ces inoubliables jeunes Allemands doivent tenir debout pour déminer. C'est là que se faufile un nouveau traumatisme pour le spectateur, car l'atmosphère se détend. Les jeunes démineurs allemands qui ne parlent même pas entre eux de la guerre ou ce qu'ils auraient dû ou pu faire pour la gagner, mais plutôt de ce qu'ils feront en rentrant chez eux. Des filles, des bières, le rêve d'exercer un métier simple, bref, des trucs de jeunes. Ils commencent à voir le sergent Rasmussen autrement, et lui aussi d'ailleurs. La glace se brise, ils sont trop jeunes, et le sergent Rasmussen n'était pas au courant. Maintenant, il sait. Nourriture, quartier libre, adoption d'un scarabée comme animal de compagnie, partie de football sur la plage, sprint vers une certaine liberté, car le sergent Rasmussen leur a promis qu'une fois le déminage terminé, ils rentreraient chez eux. Mais les conséquences de la guerre sont irréversibles et inoubliables. Et puis le chien du sergent Rasmussen, et puis un acte héroïque des jeunes Allemands, et puis à nouveau les humiliations pour ces jeunes démineurs, et de nouveau traumatisme pour le spectateur. Espoir, désespoir, plage, mine. Les oubliés du réalisateur et scénariste danois Martin Zenvliet est une belle et prodigieuse saloperie. Ce n'est pas un beau film, c'est un très grand film dégueulasse qui nous explose à la figure en nous rappelant la laideur de la guerre et ses conséquences qu'on a oubliées. Ce film est un dictateur de sentiments qui est nécessaire pour ne pas oublier que l'humanisme ne tient souvent qu'à un fil, mais que paradoxalement ce fil peut former une toile et se solidifier. Les oubliés ne s'oublient pas grâce à un capitaine de l'armée danoise, ils ne s'oublient pas grâce à un sergent Rasmussen, ils ne s'oublient pas à cause des horreurs de l'Allemagne nazie, ils ne s'oublient pas et c'est comme ça. Alors si vous n'avez pas peur de ne pas oublier, souvenez-vous qu'il faut oser aller voir Les Oubliés de Martin Zenvliet, mercredi 9 octobre et samedi 12 octobre à 14h au Cinémovida dans le cadre de la 17e édition du Arras Film Festival.
Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at rydde op efter sig selv.
Bitte hul, es ist fast vorbei.
Es ist fast vorbei.
Ich komme wieder nach Hause.
Ich komme wieder nach Hause.
Et on passe maintenant à notre agenda du jour.
Aujourd'hui, mardi 8 novembre, c'est une grosse journée du festival. À 9h30, vous pourrez voir le film belge Noce, qui a de très bons échos auprès des spectateurs. Boris, tu as vu ce film ?
Oui, j'ai vu ce film et je vous proposerai plus tard une interview avec le réalisateur Stéphane Strecker.
À 11h30, un film turc, Abloka. Là aussi, tu as vu le film, Boris ?
Exact, film très complexe, très noir, une sorte de thriller politique assez atypique. À 14h, rencontre et projection du film Land and Freedom de Ken Loach, suivi d'une rencontre proposée par l'association Colère du Présent avec les écrivains Isabelle Alba et Lydie Salvert, prix Goncourt en 2014. À 14h également, un nom important de la littérature, Marie Desplechin. Elle sera là pour présenter un film dont elle est la scénariste, Jamais Content.
À 16h30, rencontre autour d'un film d'animation pour adultes. Ça s'appelle La jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach. Boris, là aussi, tu as vu ce film ?
Oui, j'ai vu ce film. Un film très très joli, assez atypique aussi, avec une technique d'animation très spéciale. Peut-être que certains connaissent Sébastien Laudenbach, puisqu'il est originaire d'Arras.
À 19h, dans la forêt, le réalisateur Gilles Marchand et l'acteur principal du film, Jérémy Elkaïm, seront là pour échanger avec le public autour de ce film.
Également à 19h, Heidi, film tunisien, en présence de l'acteur principal, Madj Mastoura. Plus tard, dans la soirée, à 21h15, d'abord au casino, cigarettes et chocolat chaud avec une partie de l'équipe du film, la réalisatrice Sophie Rennes et les comédiens Héloïse Dugas et le Groslandais Gustave Kerven.
Et puis retour au Cinémovida à 21h30 avec un film slovène, Nightlife. Son réalisateur Damien Kozole sera là pour parler de ce film.
Et d'ailleurs, peut-être certains s'en rappellent, puisqu'il avait en 2009 présenté dans le cadre du Arras Film Festival le très très joli film Slovenian Girl. Prochain rendez-vous avec le journal du festival demain vers 7h45, 12h45 et 18h15.